Il n'a pas une grande valeur scientifique, tout simplement parce qu'une fois encore, c'est un rapport qui ne tient pas compte des études, ou plutôt de l'unique étude faite par le professeur Durakovitch sur des sujets vivants ayant inhalé ou ingéré de l'uranium appauvri. Ce rapport, il sera le fruit du travail de quatre experts restés au Kosovo 10 jours. Et qui n'ont pas effectué un travail scientifique rigoureux à mon sens. D'autre part, on sait, c'est ce que j'explique dans l'article, que l'OMS est, je serais presque tenté de dire, infiltrée par le lobby nucléaire et ce de longue date, et qu'elle ne dispose pas d'une véritable autonomie, d'une véritable indépendance vis-à-vis notamment de l'Agence atomique internationale.
Infiltration est un grand mot, puisqu'apparemment ça s'est passé de façon consentie. Il s'agit en fait d'un traité, d'un accord entre l'OMS et une agence atomique. Vous pouvez nous donner les détails?
Oui, c'est ça, c'est un accord qu'ils ont passé en 59 et qui est toujours d'application. Et c'est un accord au terme duquel il existe une obligation de commun accord entre l'Agence atomique internationale et l'OMS dans le domaine des rapports entre santé publique et radiation. Donc, on peut citer une clause de ce contrat qui les lie, dans lequel il est fait mention que chaque fois que l'une des parties se propose d'entreprendre un programme ou une activité dans un domaine qui présente ou peut présenter un intérêt pour l'autre partie, eh bien la première consulte la seconde en vue de régler la question d'un commun accord, est-il dit. Donc en clair, lorsque l'OMS veut traiter d'une question de santé publique, elle est obligée d'obtenir l'aval de la IEA, l'Agence atomique internationale, et elle ne l'obtient pratiquement jamais.
Et ça ne gêne pas les responsables de l'OMS?
Quand on les interroge, comme nous l'avons fait à ce propos, ils se défendent d'être piégés en quelque sorte par la IEA. Ils considèrent que ce contrat ne remet pas en cause leur indépendance.
On voit aussi que c'est pas la seule occasion à laquelle des études scientifiques sérieuses sont empêchées. Il y a notamment aussi l'histoire du docteur Goffman, que vous citez également dans l'article.
Oui, donc en fait, le docteur John Goffman était le chef du groupe Plutonium, donc qui a permis d'isoler le premier milligramme de plutonium en 1942, qui a longuement travaillé sur les effets mutagènes de la radiation interne au corps humain et qui a été écarté notamment de l'AEC, qui est l'Atomic Energy Commission, qui est une agence civile, qui est la plus haute instance en la matière aux États-Unis. Et lui, comme d'autres autorités scientifiques d'ailleurs, eh bien, ont été écartés dès lors que leurs recherches ont démontré que l'exposition à la radiation faible provoquait notamment le cancer.
Donc en fait, simplement, ces résultats ne convenaient pas à ce que veut entendre le lobby atomique.
Oui, c'est ça, exactement. Disons que le rapport attendu de l'OMS, encore une fois, il faut être prudent, il faut voir ce qui va sortir de cela, mais sur base de ce qu'on en sait déjà, elle va s'inscrire dans une espèce de vaste entreprise historique de dénégation qui est propre à l'industrie nucléaire, oui.
Oui, vous dites aussi que l'accord entre l'OMS et l'AIEA était un mouvement concerté pour justement familiariser une nouvelle génération avec les bienfaits de l'énergie atomique, c'est bien ça?
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que l'OMS, 2 ans avant ce contrat en 57, avait organisé une conférence internationale sur les effets de la radiation et sur la mutation génétique. Et ils étaient inspirés du prix Nobel américain Hermann Joseph Müller, donc qui avait fait d'importants travaux sur ces questions. Et là, ils avaient pour la première fois posé clairement le problème du rapport entre santé publique et exposition à la radiation. Et c'était la dernière fois, la première d'ailleurs, et la dernière fois que l'OMS a eu l'occasion de poser le problème de façon aussi ouverte, puisque 2 ans plus tard, ils signaient ce contrat, et que depuis lors, tous les travaux qu'ils ont menés sur des sujets intéressant directement ou indirectement l'industrie nucléaire, eh bien, ont été pour le moins édulcorée. C'est notamment le rapport qu'ils ont sorti après la catastrophe de Tchernobyl.
Ces jours-ci sort encore un autre rapport, commandé cette fois-ci par l'Union européenne, sur le même sujet. Et ce rapport, une fois de plus, affirme qu'il n'y a pas de lien entre les maladies, les syndromes, etc., et l'exposition à l'uranium appauvri. Ce rapport est d'ores et déjà contesté. Est-ce qu'il est vraiment impossible, finalement, d'arriver à un rapport scientifique indépendant sur un sujet aussi sensible?
Je pense qu'il faudrait pour ça aller trouver les personnes qui ont une véritable expertise en la matière. Je le répète une fois encore, parce que c'est le cœur du problème, la seule personne qui a mené une étude sur des sujets vivants exposés à de l'uranium appauvri, c'est le professeur Durekovitch. Mais personne ne veut entendre ce qu'il a à dire, personne ne veut s'intéresser aux résultats de ses recherches. Moi, je constate que le groupe d'experts qui vient de remettre son rapport à l'Union européenne. Enfin, j'ai pas lu le rapport, je n'en ai lu que ce qu'en ont rapporté les agences de presse. Eh bien, une fois de plus, n'a pas effectué un travail d'analyse sur des sujets vivants, mais s'est penché sur la littérature scientifique dont on dispose. Bon, à partir de là, je pense que si on s'inscrit dans cette voie-là, ben, on va continuer à avoir des rapports qui seront contestés de part et d'autre.
Pour en venir à l'attitude de la presse, l'article dont on vient de parler a paru dans un journal flamand, alors que vous êtes un journaliste francophone, il a donc paru dans The Morgen. Pourquoi vous n'avez pas essayé de publier, ces informations-là dans la presse francophone?
J'aurais pu me tourner essentiellement vers trois quotidiens, étant indépendant moi-même, se sont intéressés d'assez près à la problématique. Bon, l'un étant Le Soir, mais qui n'achète pas d'articles à des journalistes indépendants, pour une raison qui peut se comprendre, c'est qu'ils ont un nombre pléthorique de journalistes et que bah, ils font avec leur personnel. Ensuite, il y a le journal Le Matin, mais qui lui-même connaît de grosses difficultés et est à la veille de sa liquidation. Donc, je ne me suis pas tourné vers eux, essentiellement pour cette raison-là. Et puis alors, il y a la Libre Belgique, mais je ne sens pas très chaude pour le dire comme ça sur ce sujet-là. Bon, je peux me tromper. J'ai pas de contact privilégié avec aucun journaliste en interne. Mais vu le ton qu'ils ont adopté jusqu'à aujourd'hui par rapport à cette problématique, je me disais qu'ils n'accueilleraient pas, sans doute pas, mais une fois encore, je peux me tromper, avec bienveillance, un article tel que celui que j'ai proposé à De Morgen, ayant là un contact avec assez privilégié avec un journaliste.
Et les hebdomadaires, par exemple, le Vifl Express?
Les Vifl Express, je ne les ai pas sollicités directement. La formule quotidienne me permettait de réagir plus rapidement. Bon, je ne peux pas vous dire ici pour quelles raisons ils auraient accepté ou refusé un article. C'est vrai que je ne les ai pas sollicités.
Est-ce que vous pensez qu'il y a une certaine réticence dans une partie de la presse à aller au fond de ce sujet un peu délicat?
Je pense que non, on en a beaucoup parlé à un moment. Je pense que ça demande un gros travail d'investigation. Il y a quand même toute une série de journalistes maintenant qui se sont penchés sérieusement sur la question. Et il est vrai que pour arriver à se faire une opinion assez juste de la problématique, bah, il faut y consacrer énormément de temps, il faut voir beaucoup de monde, il faut effectuer beaucoup de recherches. Que beaucoup de journalistes, notamment de la presse écrite quotidienne, n'ont pas toujours le temps de le faire. Bon, et puis c'est vrai que d'autres ont plutôt tendance à relayer l'information venant de toute une série de lobbies, pour les appeler comme ça, notamment celui de l'industrie nucléaire.